émission Occupons les ondes sur CKIA 88,3 FM avec vos animateurs Luc Roland-Brunard et moi-même, Julien Lapierre.
Bonsoir à tous. Alors, ce soir, j'ai le grand plaisir de commencer avec une excellente nouvelle. Les trois premières émissions d'Occupons les ondes sont maintenant accessibles sur le web à l'adresse occuponsquebec.org, sans accent. À l'onglet « Occupons les ondes », bien sûr, en haut à droite pour les gens qui sont aussi techno que moi. Alors, rappelons brièvement que la première brossait un portrait général et un historique du mouvement des indignés à travers le monde. La deuxième émission, que vous pouvez écouter donc ou réécouter maintenant sur le web, expliquait les liens entre le système financier et la crise économique de 2008 qui dure toujours, malheureusement. Alors que la troisième traitait du rôle politique du citoyen éclairé avec une entrevue avec M. Stéphane Hessel, ce père spirituel, je dirais, du mouvement des indignés, ce monsieur de 95 ans qui nous avait accordé gentiment une entrevue au téléphone depuis Paris. Alors voilà, ce soir nous allons encore aborder un thème d'actualité, les accords de libre-échange. C'est d'actualité parce que le Canada négocie actuellement un nouveau traité avec l'Europe. Malheureusement, on n'en parle pas dans les actualités, justement, et bien au contraire. Alors, c'est d'ailleurs le premier problème et motif d'indignation, alors que cet accord risque d'avoir des impacts majeurs sur des enjeux aussi importants que l'eau et les ressources naturelles, donc l'environnement. Le gouvernement négocie le tout derrière des portes closes et ne laisse filtrer aucune information sur le contenu des pourparlers. En plus, on nous dit que l'entente devrait être conclue très bientôt. Donc, c'est une belle démocratie, n'est-ce pas, que celle où un gouvernement détermine notre destin pour les décennies à venir sans nous consulter ni même nous informer. C'est à se demander parfois ce qui distingue encore une démocratie d'un régime totalitaire. Les indignés, eux, veillent au grain et dénoncent sur toutes les tribunes possibles les périls associés à ces négociations. Pensons à la privatisation des services publics, à la perte de contrôle sur nos ressources, aux fermetures d'usines ou aux délocalisations de main-d'œuvre, comme on dit, ou encore à l'harmonisation des lois avec celles de nos partenaires, ce qui est toujours un euphémisme qui signifie en fait des libertés amoindries, des droits sacrifiés, des coûts supplémentaires, etc. Alors ce soir, écoutez, on va essayer de décortiquer tout ça, pardon, et pour vous. Et Julien, bien, je te laisse le soin de nous détailler comment on va s'y prendre.
Merci, Luc. Donc, tout d'abord, nous nous engagerons dans cette émission en tentant de retracer le plus justement possible l'historique des différents accords de libre-échange du Canada qui ont orienté les politiques économiques que l'on a connues tout au long des dernières décennies. C'est donc Benjamin Clich, notre chroniqueur habitué, tel un bon scout toujours au poste, présent et motivé, qui tâchera de nous en apprendre un peu plus à ce sujet. Ensuite, comme nous avons habitué à chacune de nos émissions, une personne invitée, toute spécialement pour répondre plus en profondeur à un sujet en lien avec la thématique du jour, viendra nous visiter. J'aurai justement le plaisir de vous la présenter, Mme Dominique Bernier, organisatrice communautaire et membre des Amis de la Terre, qui, de son côté, nous brossera le tableau de ce que comprend le tout dernier né des accords économiques du Canada, à savoir l'accord économique entre le Canada et l'Union européenne. J'ai personnellement déjà eu la chance d'entendre Mme Bernier discourir à ce sujet et lors d'une conférence, puis croyez-moi, à l'occasion de cette chronique, on va y apprendre des choses qui, ma foi, sont fort préoccupantes et qui suscitent certainement, une fois de plus, l'indignation. Par la suite, à l'émission, un tout nouveau membre d'Occupons les ondes, Michel Paradis, nous entretiendra sur les enjeux environnementaux et plus spécifiquement sur ce qui a trait à l'eau, et ce, toujours en lien avec ce fameux accord économique entre le Canada et l'Union européenne. Enfin, ce qui terminera l'heure d'Occupons les ondes, comme à l'habitude, nous vous aviserons des différents événements, rendez-vous et activités à noter et à faire à l'agenda de la semaine, car c'est une semaine, en fait, qui s'annonce bien remplie à Québec. Et finalement, de poursuivre avec un supplément d'informations, comme à l'habitude, Simon va nous faire un tour d'horizon sur ce qui se passe dans les différents mouvements d'occupants ou d'occupailles au Canada, tout comme à l'international. Donc maintenant, pour le moment, nous y allons avec une pause musicale avec Loco Locas, du pire en pire. L'empire du pire en pire, pardon. Allons-y.
Yeah. de l'un de l'écho. Je me suis posé sur le carton, pareil à des balles. Mais pas gros, la le vide interstitiel du néant social actuel. C'est que le politique applique ses bandes économiques. Autant s'en dire que c'était qui menait là. Et les gens désormais c'est l'âge d'or de marchand. C'est l'or en terme de changement, c'est blanc bonnet. La monarchie des marchands.
Je ne marche plus là-dedans.
Je refuse obstinément le globe. Le globe, globalement. Je ne suis pas d'accord avec l'accord multilatéral d'investissement.
Qui traite l'or comme du lard.
Avec un pareil ami, pas besoin d'ennemi. Toutes les nations sous l'ennemi déroulent le tapis au nord. On se à l'ouest de Jean-Marie. Empire aveuglé par la gloire du pouvoir. Je lutte pour ne pas être un gosse du négoce. Tentatoire au plus, à des vies juste du pain. Et des jeux à qui le devient le mien.
Pauvre gros dieu.
Pour assurer systématiquement le système. En place d'un rebut complet.
Abruti par le spectacle.
La masse assommée, qu'on ne peut de consommer. Se consumer cautionne la facilité.
Cité comme un roi de cité dans la cité.
Le problème est tout le chemin même dans cette orgie gigantesque dans cette caisse. Esclaves
vaches, spectateurs,
spéculateurs. J'ai une telle vision dans laquelle nous brisons les chaînes et les câbles avec lesquels ces fils de feu nous entourent. Ils pendraient leur mal si ce n'était les chars.
Exportent leurs camions avec leur propre corps. Les gars viennent dans de la réciproque.
C'est que nos portes ouvertes à bord, le diable les emporte.
Le culte du plus,
l'éloge de l'image,
la paix belle embellie.
Tout seul à ma terre et me désespère. Car ma mère la terre se détériore, attaquée par des terroristes matérialistes. Ils ont sans science, sans associer les cons des conséquences de leur inconscience. À l'abri dans leur crève, une grimace, un grain fait grain, c'est l'engrenage de leur grandeur.
Alors, ils dégainent leur crève,
toujours à la ceinture, en cas de coup dur. Et transverse, de front, une peste venue. Mais l'ennemi des Romains
est à portée de la main.
L'armée par le Gaulois,
le Gaulois.
Bien, alors comme Julien vous le disait à l'instant, notre bon scout Benjamin Clich est avec nous pour
salut,
nous salut, pour nous rappeler, ça te faire rappeler le bon scout.
Oh oui, j'étais scout pendant 10 ans.
Ah ben voilà, voilà.
Scout un jour,
Julien,
scout toujours.
Julien a dû le sentir. Alors, tu es là pour nous rappeler un peu l'historique des traités de libre-échange que le Canada a signé. Et je pense que tout ça a commencé par ce qu'on appelle le pacte de l'auto. Est-ce que je me trompe?
Oui, oui. Non, en fait, tu te trompes pas. Là. En fait, c'est un peu l'idée de la chronique, c'est de mettre en contexte l'ACG, donc l'accord économique, commercial et global, qui a lieu actuellement. Donc, effectivement, comme tu le mentionnes, Le premier pacte de libre-échange Canada-États-Unis a eu lieu en 1965 et s'est appelé le pacte de l'auto. Donc, c'est vraiment le premier traité de libre-échange qui concernait uniquement, finalement, le marché de l'automobile. Donc, dans le secteur de l'Ontario, on sait qu'il y a beaucoup d'industries manufacturières qui fabriquent des voitures. Et en 1965, ils ont signé un traité pour, finalement, abolir les tarifs douaniers. Donc, c'est vraiment le premier traité de libre-échange d'ampleur qui ont profité aux compagnies américaines comme General Motors, Ford et Chrysler.
Bien. C'est un pacte qui, je crois,
dure
toujours et est assez positif pour l'économie canadienne, évidemment.
Oh oui, ça. Donc, premier pacte de libre-échange. Après ça, les années passent, les années 70, les années 80. Et là, à la fin des années 70, au début des années 80, on peut considérer de manière historique que c'est un peu le retour des idées néolibérales. Donc, avec des économistes comme Milton Friedman ou von Hayek, qui vont influencer grandement les politiques économiques du Canada et des États-Unis. Et là, on va voir en 1988 l'arrivée de l'ALLE, donc l'accord de libre-échange Canada-États-Unis. Donc, ça a été signé en 1988 sous le gouvernement conservateur de Mulroney et le gouvernement républicain de Ronald Reagan. Et là, c'était un accord qui englobait davantage de biens et services. Donc, pas uniquement l'automobile, mais plusieurs biens et services. Et là, c'est vraiment des accords basés sur les axiomes de base, mettons, de l'idéologie néolibérale, du libre marché, de la libre concurrence, finalement, la circulation des capitaux sans entrave. Bon, on connaît un peu la recette néolibérale. Puis diminuer le protectionnisme, évidemment, le protectionnisme, c'est là comme le mal absolu, donc les gouvernements peuvent pas légiférer. Dès qu'il y a une législation trop importante, bon, c'est du protectionnisme. Donc, signé en 1988.
Donc, les biens, les services, les capitaux sont libres, mais les citoyens, eux, rien n'a changé entre Canada et États-Unis.
Oui, c'est ça. Ben, ils veulent. Il y a quand même des ententes aussi par rapport à la circulation des personnes, mais on a quand même toujours l'impression que les capitaux et les financiers et physiques ont plus de facilité à circuler que les personnes. Mmh. Suite à l'ALLE, 6 ans plus tard, est signé, rentre en vigueur l'ALENA, donc l'accord de libre-échange nord-américain, qui englobe non seulement le Canada et les États-Unis, mais également le Mexique. Là, donc, on parle vraiment l'Amérique du Nord au complet, les 3 pays de l'Amérique du Nord. Et en fait, c'est un accord de libre-échange qui va englober l'ALLE, qui a été signé 6 ans auparavant. En fait, en englobant cet accord de libre-échange-là, il va y avoir des nouveaux chapitres qui vont apparaître. Puis il va y avoir l'élargissement des produits et services, comme par exemple sur les produits agricoles, ce genre de choses-là. Puis un chapitre que je trouve très intéressant, c'est le chapitre 11, puis il y a une nouvelle clause qui apparaît, en fait, c'est le fait que les compagnies peuvent poursuivre les États.
Oui, ça c'est okay, un peu préoccupant, non?
Oui, c'est ça. Donc là, on va un peu plus loin que le libre-échange. Là, c'est pas seulement l'élimination des tarifs douaniers, donc pour faciliter la circulation des capitaux, puis pour diminuer les coûts. Là, on parle vraiment de compagnies qui peuvent être très puissantes, puisqu'ils font des profits très, très, très énormes, comme on le sait. Mm-hmm. Ils peuvent poursuivre les États. D'ailleurs, il y a eu des cas de poursuites envers le Canada, envers les États-Unis, envers le Mexique, au cours des 20 dernières années. On mentionne par la même occasion, parallèlement à l'émergence de l'ALENA, il y a la création de l'OMC en 1995, qui est comme la suite du cycle de l'Uruguay. Là.
L'Organisation mondiale du commerce.
L'Organisation mondiale du commerce qui va remplacer le GATT. Puis voilà, c'est vraiment sous l'ALENA que beaucoup de politiques économiques sont décidées depuis les 20 dernières années. Il y a eu une tentative d'élargissement de l'ALENA, qui englobait, comme je le rappelle, les 3 pays d'Amérique du Nord, sur la ZLEA, donc la zone de libre-échange des Amériques.
Oui, avant de passer à la ZLEA, oui. on peut considérer qu'il y a une perte de souveraineté là, des États qui sont signataires. Compagnies et l'OMC peuvent leur dire, bien, ce que vous faites là n'est pas acceptable.
Oui, bien, effectivement, ceux qui s'opposent au traité de libre-échange, il y a une des critiques qui est assez fondamentale, à mon avis, c'est un peu la perte de souveraineté des États, comme tu l'as mentionné, notamment le fait que les compagnies peuvent poursuivre les États. S'il y a des États qui vont qui vont avoir des mesures environnementales plus importantes, ben là, la compagnie peut la poursuivre en disant que c'est du protectionnisme ou que finalement, ça ne favorise pas la libre circulation des capitaux. Donc, ça, c'est quand même une clause assez importante.
Oui. Et l'ASVLEA?
Le temps passe vite. L'ASVLEA, en fait, tout le monde se rappelle du fameux sommet des Amériques à Québec en 2001. Ça, en fait, c'était le troisième sommet de l'ASVLEA. Mais l'ASVLEA a été un projet avorté parce que, en fait, ça voulait intégrer l'ensemble des pays de l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Sauf qu'il y a eu une résistance très forte de l'Amérique du Sud, notamment du Venezuela, donc le Venezuela d'Hugo Chavez. Mm-hmm. Et on sait un peu le discours politique d'Hugo Chavez envers l'hégémonie américaine. Donc, c'est un projet qui a été avorté en 2005. Donc, vraiment, bien, jusqu'à présent, le Canada, les politiques d'exportation et importation sont basées sur l'ALENA. Et c'est ça un peu, finalement, la mise en contexte historique qui mène aujourd'hui à l'AECG, qu'on va entendre parler après la pause.
Merci beaucoup, Benjamin. Et puis, on avait aussi le PSP, mais on aura sûrement l'occasion d'y aller. Pour l'instant, on écoute un extrait d'une très longue chanson, « L'Europe est très bonne aussi » du groupe Noir Désir.
Je répète, les sangliers sont lâchés. Les petits patrons font les grandes rivières de diamants. Deux fois. Les roses de l'Europe sont le festin de Satan. Je répète, les roses de l'Europe sont le festin de Satan.
Toujours à l'émission d'Occupons les ondes, à l'antenne de CKIA 88,3 FM. Nous recevons donc aujourd'hui, comme invité à notre émission, Madame Dominique Bernier. Donc, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. D'abord, merci d'être parmi nous. C'est gentil de vous être déplacé. Et question de vous présenter à nos auditeurs, auditrices. Vous êtes donc organisatrice communautaire et membre aux Amis de la Terre, aussi responsable du comité agriculture ainsi que du suivi concernant le dossier qui nous intéresse aujourd'hui à l'émission, à savoir cet accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. C'est bien ça?
Oui, c'est ça, exactement.
Dans le temps qui nous est accordé à l'émission, tenter de nous éclaircir et de nous renseigner sur ce que comprend cet accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe. Et je pense que c'est signé, ça, récemment, ou ça va signer récemment.
Oui, bien, en fait, tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'en sait rien. On ne sait pas grand-chose à propos de cet accord-là. Tout ce qu'on en sait provient de fuites. Et puis, les fuites sont relativement fréquentes. On est chanceux pour ça. Mais il n'y a aucune certitude concernant cet accord-là. Sa signature, on a entendu à travers les branches qu'elle pouvait être en février, c'est possiblement ça, oui. Au Canada, mais on n'en sait pas plus que ça. Une chose est sûre, c'est qu'il faut que ça soit ensuite entériné par... le Parlement, donc ça devrait se faire d'ici la fin de la session parlementaire actuelle, on pense, mais on peut pas en être certain.
OK, donc, et quand il y a eu des fuites, je pense que les médias y en ont parlé, mais c'est à peine finalement si on a mis la main là-dessus.
Exactement, hein, il n'y a pas beaucoup d'informations qui circulent au sujet de cet accord-là, contrairement aux autres accords économiques dont l'intervenant précédent nous a parlé. Cet accord-là, ce qui fait qu'on n'en parle pas, nous, ce qu'on pense, c'est que possiblement, c'est un accord avec l'Europe. Et l'Europe rassure d'une certaine manière, parce que quand on pense à l'Europe, on pense à des politiques sociales élevées, à une protection environnementale avantageuse, même par rapport au Canada, à des services publics bien développés, à des syndicats forts. Mais ça, c'est l'Europe.
Ça, c'est en apparence, parce que là, surtout avec la crise économique, on pourrait même se demander si c'est toujours aussi fort. Je sais que au niveau économique, en tout cas, il y a un creux certainement en Europe. Mais sinon, c'est ça, ces accords de libre-échange-là nous positionnent aussi dans une position un peu de En tout cas, il y a des choses préoccupantes dans tout ça. Hein?
Oui, en effet.
Dans ce que j'en ai su, là, jusqu'à maintenant.
En effet, l'Europe avec qui on négocie, c'est pas l'Europe sociale et environnementale à laquelle on pense. L'Europe, c'est 27 pays qui sont entrés progressivement dans une zone de libre-échange dont les orientations vont clairement à l'encontre des politiques sociales. Donc, elles n'ont cessé de s'affaiblir depuis la création de l'Union européenne. Notamment, en 2009, il y a eu le traité de Lisbonne qui est entré en vigueur, qui avait été signé auparavant, qui centralise la prise de décision. Donc, ça éloigne les lieux de décision du citoyen. Et puis, ça force la déréglementation massive et ça réduit considérablement les services publics. Ensuite, le principe de base de l'Europe, c'est le principe de la concurrence libre et non faussée. C'est un concept contre lequel, Joseph Stiglitz a gagné son prix Nobel d'économie en démontrant qu'une une concurrence libre et non faussée est impossible à atteindre.
OK, fait qu'on peut pratiquement croire que c'est un peu contradictoire dans quoi il...
En effet, parce que c'est impossible d'avoir que tous les agents, inclus dans un système économique, aient l'information nécessaire pour faire des choix éclairés.
Oui. Et c'est pas dans l'esprit de lutte économique, ou en tout cas les multinationales, tout ça, ils veulent, c'est la pas du gain finalement qu'on retrouve habituellement en économie.
Ben exactement, on n'a qu'à le voir ici avec les gaz de schiste, on a de la difficulté à obtenir on ne peut pas obtenir la composition des agents qui entrent dans la fracturation hydraulique parce que c'est un secret industriel, alors que ce sont des produits qui menacent de polluer notre eau.
Et affecter notre santé et tout ça. Puis
exactement.
En même temps, c'est quand même les basses terres du Saint-Laurent et tout ça. Finalement, c'est ça, c'est vraiment pas... On peut penser que c'est pas trop dans l'esprit de ces compagnies-là.
C'est dans une logique néolibérale qui vise à enlever les obstacles au commerce et qui vise à, amoindrir amoindrir l'effet des protections justement contre les externalités des entreprises pour la population. Donc, cet accord-là s'inscrit exactement dans cette logique-là. Puis bon, en Europe, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que depuis plusieurs années, il y a eu des privatisations massives, les télécommunications, l'énergie, les transports, qu'on pense aux trains, aux transports maritimes ou aux autoroutes. Les postes dans plusieurs pays ont été privatisés. La santé et l'eau, les services d'approvisionnement en eau et d'assainissement en eau. À ce sujet, il y en a plusieurs qui sont revenus À des services publics, justement, parce qu'il y a eu plusieurs problèmes qui ont été causés suite aux privatisations.
Des problèmes, et j'imagine aussi une certaine levée aux barricades par les citoyens. Je sais que moi, j'ai entendu parler que, en tout cas, à tout le moins en France, il y a quand même beaucoup de... pratiquement des mouvements de désobéissance civile. Je sais, en tout cas, même en éducation, c'est ça. J'avais entendu qu'il y avait à peu près 2500 professeurs qui avaient créé là, vraiment un mouvement de désobéissance civile parce que, justement, les choses sont administrées un peu comme des business, là, finalement, puis c'est supposé être des services aux citoyens, là, tout ça. Là.
En effet, on peut dire que c'est ça. Il y a tellement une dégradation de certains services publics, notamment l'éducation en France, comme vous dites, que oui, il y a des gens qui montent aux barricades et c'est une bonne chose, on pense. Mais ce genre d'accord-là, la SCG va faire en sorte que ça va être de plus en plus difficile d'obtenir gain de cause.
Parce que c'est une loi, parce qu'on légifère, à ce moment-là, on risque de se retrouver dans... ou les citoyens risquent de se retrouver dans une position où ça va être plus difficile à défendre.
C'est pas une loi, c'est un traité, c'est un accord économique. Okay. Et en ce sens, nos gouvernements ont tort de dire qu'on ne peut pas revenir sur un traité. On n'a qu'à voir ce qu'ils ont fait avec le protocole de Kyoto, qui est du même ordre. Ils ont reculé. Donc, on peut faire la même chose avec les accords économiques. On peut faire tout à fait la même chose. Sauf qu'on nous dit que c'est bon. Ce qui se passe avec les accords économiques, comme celui-là, c'est qu'il y a des tribunaux administratifs qui gèrent les différends. Okay. C'est même pas des tribunaux... ils sont pas assujettis aux lois canadiennes. Okay, c'est des tribunaux à part, privés, et qui donnent des amendes aux États. Et nous, les citoyens, on n'a aucun droit de regard là-dessus.
Donc, c'est bien pour dire aussi que, déjà, si on pense à l'esprit qui s'est installé à travers ces accords, ben, t'sais, comment ça a été traité jusqu'à maintenant, hein, un peu à huis clos, on en sait peu et tout ça, on peut quand même prévoir que, c'est ça, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas une réelle sensibilité à ce que les gens soient au courant de tout ça. Donc, c'est moi, en tout cas, ça m'apparaît inquiétant tout ça. On va pouvoir poursuivre en deuxième partie avec toujours Dominique Bernier des Amis de la Terre. Alors, on va devoir faire une pause musicale. On y va avec Yann Tiersen avec la pièce Plus d'hiver.
Alors, voilà.
Donc, de retour de la pause musicale, vous êtes toujours à l'émission qui font les ondes en compagnie de notre invitée, Mme Dominique Bernier, des Amis de la Terre. Alors, on est en à dire finalement que, en tout cas, moi je trouve que la manière que ça a été fait jusqu'à maintenant, tout ça, comment ça se passe sur cette question des accords économiques entre le Canada et l'Europe, ça semble inquiétant. Là.
En effet, c'est une des raisons de s'inquiéter fortement de l'AECG, de son petit nom, Accord économique et commercial global. C'est le manque total de transparence. En fait, on nous dit qu'il y a une tradition du secret avec les accords économiques. Ce qu'on oublie de dire, c'est que ça a parfois été un enjeu électoral, notamment dans le cas de Brian Mulroney dans les années 80. Et parfois, on était au courant des enjeux qui étaient négociés par ces gens-là. Pour nous décrire l'importance du secret, on prend l'analogie de la partie de poker. Donc, on devrait comprendre que...
Il y a toujours une carte qui...
On bluffe avec nos services publics, bluffe avec le bien commun, et puis on est en train de négocier ça en cachette, comme c'est un jeu, c'est une question de... Mon Dieu, de santé, de sécurité nationale.
Et pour l'avenir, en fait, aussi, de toutes les prochaines générations, hein, ça concerne. C'est quelque chose qui peut vraiment nous enligner dans quelque chose qui va être difficile après ça à refaire bol de face.
En fait, ce qui est au centre de ça, c'est les transactions commerciales, d'abord et avant tout, et uniquement, et tout le reste devient comme secondaire. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre avec cette perspective-là, c'est que une population en mauvaise santé, c'est bon pour l'économie. Parce que ça augmente le PIB. Ça fait des transactions, on achète des médicaments, on va chez le médecin. Donc, toutes ces transactions commerciales-là augmentent le PIB. Tandis qu'une population en bonne santé, un environnement sain, qu'on n'a pas besoin de réparer, c'est mauvais pour l'économie. Ça fait baisser la croissance économique. Donc, c'est cette logique-là qu'on essaie de nous vendre et de mettre au-dessus du bien commun. Moi, je considère que c'est complètement
fou. C'est aberrant, là, c'est sûr.
Il y a la disposition de protection des investissements qui est inquiétante aussi. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec l'intervenant précédent. Ça permet aux entreprises de poursuivre les États pour perte de profit potentiel. Et comme je le disais tantôt, elle poursuit les États devant des tribunaux administratifs à huis clos.
Fait qu'on freine leur profit, ils nous actionnent.
Ils nous actionnent. Si on met une loi pour protéger l'environnement puis qu'ils considèrent qu'ils vont perdre des profits, ben ils nous actionnent. Et puis, bon, on est tenu de leur payer des dommages, mais nous, le citoyen, le gouvernement n'est pas tenu de nous dire combien de poursuites, pour quel montant. Donc, on est dans le flou total. On en apprend à travers les branches. On sait que c'est pour des milliards de dollars, mais on ne sait pas combien exactement. Déjà, en vertu de l'ALENA, il y a eu au moins 28 réclamations contre le Canada, mais on ne peut pas savoir exactement lesquelles. D'autres aspects super inquiétants, c'est l'ouverture des marchés publics au profit des multinationales européennes. Dans le cas de l'eau, mais pas seulement, les marchés publics, c'est tous les approvisionnements de l'État, que ce soit fédéral, provincial, des gouvernements fédéraux, provinciaux ou des municipalités, tous leurs achats en biens et services seraient ouverts à la concurrence étrangère.
Étrangère, alors, ils peuvent facilement venir un peu monopoliser un service, puis maintenant que ça va être géré. Puis souvent, on sait que ces genres de compagnies-là multinationales ne vont pas se préoccuper des services aux citoyens ou vont y aller pour faire de la business encore.
Le but d'une entreprise privée, c'est de faire du profit, d'avoir un rendement élevé pour ses actionnaires. Donc, ça se fait soit en baissant le niveau de service, soit en baissant les salaires, soit en augmentant la productivité, puis la productivité maximale, c'est pas nécessairement la productivité optimale
quand on pense notamment
à tout ce qui est ressources naturelles.
Et l'environnement. Ça m'inquiète tellement, c'est ça, tout ce qui touche l'environnement.
Exactement. Donc, dans le fond, l'ouverture des marchés publics, ça va faire en sorte que des compagnies super habituées à faire des appels d'offres, comme Suez, Veolia et des grosses multinationales européennes comme ça, vont pouvoir soumissionner avec probablement un meilleur prix, parce que c'est des grosses boîtes. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le meilleur prix n'est pas nécessairement le meilleur marché, parce que parfois, en payant un peu plus cher, on peut se permettre d'encourager plus l'économie locale, de faire travailler les gens ici. Et on peut choisir en fonction de certaines valeurs, notamment des produits équitables ou qui protègent l'environnement, voilà. Ce qui n'est pas le cas quand on fait un appel d'offres comme celui-là.
Donc, ça serait plus responsable. Maintenant, je voulais savoir, parce qu'on s'en dirige vers la fin de l'entrevue, est-ce qu'il y a des actions, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut poser, nous, soit en tant que citoyen, ou est-ce que peut-être qu'il y a déjà eu aussi peut-être des actions posées?
Il y a eu des actions posées. Actuellement, ce qui se prépare, c'est des négociations avec la Ville de Québec pour faire en sorte qu'elle s'auto-exclue de l'accord. On veut aller lui proposer une résolution, un modèle de résolution qu'elle pourra adopter. Fait que je vous invite à vous tenir au courant. On va vous donner tous les détails prochainement.
Oui. Donc, avec les Amis de la Terre, on va pouvoir se tenir au courant, parce que j'invite justement tous les auditrices et auditeurs à consulter. Donc, vous avez un site Internet,
oui,
aux Amis de la Terre.
Et
vous êtes situé, je peux le rappeler aux auditeurs, sur la rue Salaberry, au 870, j'y allais de mémoire, au deuxième étage. Merci beaucoup, franchement, de vous être déplacé et de nous en avoir appris un peu plus, enfin, sur ce dossier. Puis j'espère que les journalistes ou les gens vont faire leur devoir de nous informer davantage sur ces questions. Donc, on poursuit en chanson, toujours, avec, L'or bleu de Franck et ses potes. toujours à l'émission qui font les ondes sur CKIA 88,3 FM. Alors, dans cette deuxième partie d'émission, nous recevons Michel Paradis, nouveau venu dans l'équipe de qui font les ondes. Alors, ben salut Michel.
Salut, salut.
Merci de te joindre à nous, à l'équipe. C'est sûr qu'on est bien contents. Et j'aurais aimé, pour le profit de nos auditeurs, auditrices, que tu te présentes un peu, je pense, tu étudies en environnement, c'est ça?
Oui, je suis étudiant en sciences d'environnement à TELUC. Je vais terminer bientôt cette session-ci.
Cette session-ci, wow, oui. Félicitations. Donc, on poursuit justement à investiguer et à tâcher de mieux comprendre ce que comprend ce fameux accord économique entre le Canada et l'Union européenne, à savoir de quoi il est fait. Mais Michel, tu t'es concentré, toi, à dégager ce qui concerne davantage l'eau dans ce traité, parce qu'il y a la question de l'eau. J'aimerais d'abord, si tu peux me le permettre, j'aimerais te demander d'où vient exactement cette idée que les gouvernements de vouloir inclure les services de distribution et d'assainissement de l'eau dans cet accord là, économique, commercial et global entre le Canada et l'Union européenne?
Dans un premier temps, c'est sûr et certain que les besoins en eau en tant que tel au niveau de l'Union européenne sont quand même assez importants. C'est sûr et certain qu'on est au 21e siècle et puis les besoins quand même se font sentir un peu partout. Comme on est un pays dont la ressource, on détient quand même le cinquième des ressources naturelles
d'approvisionnement en eau
global. Oui, c'est ça,
l'approvisionnement en eau aussi. Hein?
Oui, justement, donc ça, le principe, ce qu'on veut faire dans le fond, c'est faciliter l'accès, dans le fond, à la ressource directement en impliquant justement les principales sociétés, je peux nommer Suez, Agba aussi, au Canada, tout simplement pour venir exploiter ces ressources-là ici au pays.
C'est un peu si on lançait une invitation toute... un peu comme si on servait sur un plateau d'argent, en fait, et on disait à ces compagnies-là, avec cet accord-là, les compagnies européennes, venez finalement vous occuper de notre ressource ou vous occuper de nos infrastructures, là, si je comprends bien.
Oui, c'est en plein ça, dans le fond, c'est justement, ça va leur permettre tout simplement de pouvoir profiter de la ressource, oui. C'est sûr et certain que ça va occasionner, par contre, quand même... beaucoup d'impact sur différents aspects. Je voulais juste faire un petit topo vite fait au niveau des impacts plus sociaux. C'est sûr et certain que l'arrivée du secteur privé dans les communautés, dans les municipalités, les localités, ça va poser un problème, si on veut, une sorte de mécontentement. C'est sûr et certain, parce que dans un certain point de vue, on va être obligé d'inclure les appels d'offres en tant que tels dans certaines municipalités aussi, et puis d'inclure justement ces sociétés-là.
Ces sociétés-là, ça, c'est comme si... moi, je connais peu, en fait, toutes ces questions-là. Je ne sais pas si tu en connais plus que moi, peut-être pas. Mais à savoir, tu sais, si peut-être ça va empêcher, comme certaines soumissions, ou les principes de soumission, tout ça, ou disons, sont tellement puissantes, ces compagnies-là, j'imagine, qu'ils vont offrir des taux tellement concurrentiels qu'ils vont prendre... finalement, ils vont avoir le dessus sur tous les appels d'offres. C'est probablement ce qui pourrait arriver, là, je pense.
Oui, bien, c'est sûr et certain qu'en étant quand même présent dans les appels d'offres, on s'entend qu'il y a beaucoup de multinationales qui sont quand même intéressées à venir exploiter les ressources au Canada. Donc, c'est sûr et certain que ça va diminuer en tant que tel le fait que certaines municipalités ou quoi que ce soit puissent s'impliquer dans ces appels d'offres-là
qui sont canadiennes et probablement qui ferait des retombées davantage au Canada ou au Québec, là, si on parle du Québec. Donc, c'est ça. Puis les impacts, on parlait des impacts. Est-ce qu'on peut peut-être énumérer ou faire avoir une idée des impacts? On a parlé tout tantôt pas mal au niveau de l'économie, tout ça, les impacts qu'il peut y avoir, mais au niveau justement social et culturel, est-ce que tu en voyais d'autres, toi?
C'est sûr, au niveau culturel, on parle un peu d'atteinte aux Premières Nations.
C'est vrai. C'est
sûr et certain que le fait que ces sociétés-là s'imposent, dans le fond, au Canada pour l'exploitation de la ressource, ça peut poser quand même un problème à ce niveau-là, tout simplement parce que les Premières Nations vont utiliser la ressource en eau en tant que telle, autant pour des besoins de subsistance que pour d'autres utilisations aussi. Et puis l'expansion, dans le fond, des sociétés sur le territoire en tant que telle, ça peut un peu saper leur acquisition en eau.
C'est ça. Puis en fait, on le sait comment déjà le fédéral ou comment nous, au Canada, on a déjà un lien, disons, pas très respectueux avec les Premières Nations. Fait que j'imagine si on... avec ce genre d'accord-là si en plus on y mêle les grandes sociétés ou les multinationales corporations européennes et tout ça. Ça améliorera sûrement, certainement pas le sort de ces gens-là. Donc, est-ce que tu... disons, pour les pour et les contre face à l'adoption de cet échange-là, est-ce que tu as été capable de voir s'il y avait finalement des pour à tout ça, là?
Non, pas... non, c'est ça. Non, justement, c'est... j'ai essayé de regarder, puis...
t'as cherché, t'as fait ton travail, mais disons que ça a été difficile de trouver des pour à tous ces accords-là.
Bien, ce que... justement, j'en discutais avec Dominique, qui était présente tantôt. C'est sûr et certain que il n'y a pas nécessairement d'avantages en tant que tel, parce qu'on ne les voit pas, tu sais. C'est vraiment un peu sous la couverte, si on veut.
On en sait encore trop peu, finalement.
Si on en sait encore trop peu. C'est sûr et certain que ça peut peut-être favoriser les échanges entre pays aussi. Mais par contre, on s'entend vraiment que ce que ça peut poser en tant que tel, juste un exemple vite fait, au niveau environnemental, c'est sûr et certain que, admettons que moi, je m'achète une parcelle de terre, on va dire en Bolivie, pour construire un hôtel, bien, comme moi, je suis un privé, je vais pouvoir avoir le droit de défricher une certaine parcelle. Le fait que les multinationales soient présentes au Canada, mais en beaucoup plus grand nombre, il va falloir les rassembler tous ensemble pour voir l'impact environnemental global, si on veut, au niveau du pays. Ça va être vraiment un enjeu à surveiller.
J'ai bien hâte de voir comment nos gouvernements ou tout ça vont essayer de nous vendre la chose une fois qu'ils vont se lancer dans ce genre d'exercice. Maintenant, merci Michel. Franchement, je suis content de t'avoir reçu. Et on va poursuivre rapidement en chanson avec une pièce musicale interprétée par les violons du roi, Piazzolla, Fuga y Misterio. Thank you.
toujours à Occupons les ondes sur CKIA 88,3 FM. Et maintenant, Simon Michaud-Blais nous présente l'agenda international.
Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous sentez comme moi que le printemps arrive à grands pas. Et qui dit printemps dit dégel, dit vivacité, dit action. À partir de maintenant, ça reprend de la vitesse, autant aux États-Unis qu'ici, qu'ailleurs dans le monde. Alors, soyez prêts. Bien, tout d'abord, un grand bravo aux travailleurs d'une usine de fenêtres de Chicago qui ont depuis plusieurs années des problèmes avec la grosse compagnie propriétaire qui vient, avec l'appui d'Occupy Chicago, d'obtenir le droit de transformer l'usine en coopérative au lieu de la voir se faire fermer et de perdre leurs emplois. Ce genre de situation arrive de plus en plus, en particulier dans l'Amérique latine. C'est un dossier à suivre. Ensuite, un autre grand succès, la journée d'action nommée Occupons notre approvisionnement alimentaire. Plus de 60 occupations, dont certaines au Canada, et plus de 30 groupes et organismes ont participé à l'événement avec une diversité d'actions très impressionnante. Beaucoup d'informations ont aussi été données sur la centralisation des pouvoirs entre les mains d'une poignée de compagnies ultra riches pour toutes les étapes de la semence à notre assiette. D'ailleurs, des actions contre plusieurs de ces compagnies, dont Monsanto et Walmart, ont eu lieu aujourd'hui aussi et continuent d'avoir lieu en cette journée d'action contre le groupe ALEC. Pour plus d'informations sur ce groupe et pourquoi il est nécessaire de faire des actions contre lui, je vous invite à visiter le site shutdownthecorporations.org qui déborde de textes explicatifs et de vidéos très intéressants sur le sujet. Vous pouvez aussi assister en direct à ces actions via les live streams disponibles en ce moment même sur occupywallst.org. En parallèle, aujourd'hui a lieu dans tous les pays de l'Union européenne de grandes manifestations contre les mesures d'austérité qui se multiplient un peu partout pour tenter de faire survivre un système économique qui ne fonctionne plus et qui n'est plus au service d'intérêts plus grands, comme le bien-être de l'ensemble de la population. Maintenant que nous savons qu'il y a de plus en plus d'actions, qui sont de plus en plus mondiales, la nécessité d'avoir des outils de coordination est plus que jamais présente. Eh bien, plusieurs outils viennent d'être créés pour permettre au plus grand nombre de personnes de partout à travers le monde de participer à l'élaboration d'actions et d'événements. Ces outils sont réunis sur le site occupy.net. Il y a par exemple un outil permettant de poser des questions et d'y répondre, ou encore le site interoccupy.org qui permet quant à lui de participer à des appels conférences par rapport à plein de thèmes ou par rapport à des événements. C'est donc plein de possibilités qu'il nous suffit de saisir. À toi maintenant, Julien.
Merci. Simon, à l'agenda cette semaine, pour ce qui est de ce qui se passe davantage à Québec, je voulais prendre le temps d'inviter les auditeurs et auditrices à visiter le site Occupons Québec, qui se voit améliorer, pour le nommer aussi, le site Occupons Québec sans accent.org. Ils ont amélioré le site en y ajoutant un bulletin hebdomadaire dans le but de tenir les membres au courant des projets en cours. Et on rappelle aussi qu'il y aura un grand réveil du printemps au cours du mois de mai. Je reviendrai avec des nouvelles là-dessus au cours des prochaines émissions. Donc, il y a toujours place à l'implication. Pour ce qui est d'une belle activité aussi, qui est dès ce soir, le mois de mars féministe, les mercredis à l'Agité, dans le cadre, donc, comme je le disais, du mois de mars féministe, à 19h ce soir au bar Coop L'Agité, 255 rue Dorchester à Québec, c'est gratuit. Donc, les mercredis agités sont un programme bimensuel de conférences, de débats et d'assemblées publiques prenant place au cœur de la ville de Québec. Loin des tours du savoir universitaire, il s'agit de permettre à tous et à toutes de participer aux échanges. Il y aura d'autres dates au cours du mois de mars également, c'est-à-dire le 14, le 28 et même au mois d'avril, le 11 et le 25. Vous pouvez consulter le site du bar Coop L'Agité. Maintenant, demain, un grand événement festif et de manifestation à Québec contre la hausse des frais de scolarité. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler. Donc, dès 14h au Parc des Braves à Québec, une grande marche est organisée par le mouvement étudiant La Classe et il y a aussi à 13h30 la possibilité de se rendre au centre Lucien Borne, la coalition de Québec Chaudière-Appalaches opposée à la tarification et à la privatisation des services vous donne rendez-vous à 13h30 pour appuyer cette marche. Voilà, on poursuit avec Luc pour terminer l'émission.
Oui,
merci.
C'est déjà presque la fin de cette émission d'Occupons les ondes sur le thème des accords de libre-échange. Alors, notre équipe ce soir était composée de Charles-Eugène Bergeron, Michel O'Neill et Isabelle Cyr à la recherche. Michel Paradis et Benjamin Clich ont préparé pour vous les chroniques ce soir. Simon Michaud-Blais, vous venez d'entendre, vous a détaillé l'agenda international des indignés. C'était Mme Dominique Bernier des Amis de la Terre, cet organisme si précieux qui était notre invitée ce soir et nous a tracé un portrait plutôt troublant de l'accord de libre-échange en train de se conclure entre le Canada et l'Europe derrière des portes closes. Julien Lapierre vous a quant à lui annoncé ce qui se prépare comme activité ici même au Québec et a co-animé, comme toujours avec moi-même, Luc Roland Brunard, cette émission signée Marie-Hélène Demeul. Notre rendez-vous est hebdomadaire. Nous souhaitons donc vous retrouver mercredi prochain à 17h sur les ondes de CKIA 88,3 FM. On peut bien sûr être d'accord ou non avec l'idée d'un traité de libre-échange avec l'Europe, mais comment se former une opinion éclairée si nos gouvernements refusent de nous indiquer leurs intentions? Souvenons-nous que dans les années 80, Brian Mulroney avait eu au moins le mérite de mettre au centre d'une élection son projet de traité avec les États-Unis, ce qui avait permis à tous d'exprimer leur position sur cette idée. Aujourd'hui, le négociateur du gouvernement québécois est venu dire, non sans arrogance, à la commission parlementaire chargée de ces dossiers, qu'il ne pouvait rien dire des discussions en cours. Quand même, les représentants élus par la population sont tenus dans l'ignorance de ce qui se trame. On peut se demander le poids de nos votes. Pourtant, encore le symbole à ce que je cherche de ce qu'on appelle de plus en plus erronément une démocratie. Il y a vraiment de quoi s'indigner, surtout quand on prend conscience, comme on l'a fait ce soir, des impacts majeurs et parfois désastreux de ces accords qui sur notre vie collective. Alors, la semaine prochaine, on va aborder un côté plus lumineux de l'économie alternative, et on reçoit Mme Viviane Labrie, terrienne, c'est ainsi qu'elle souhaite être présentée. Et vous vous souviendrez peut-être de son rôle dans le collectif anti-pauvreté. Alors, à ne pas manquer, et on vous laisse avec mes amis de filles, mais d'abord, on écoute The Privateers de Andrew Bird. Bonne soirée et bonne semaine à tous.
One-time offer, so uncalled for, you call it peace of mind. Cause I can see your house from here. Now all leaves have fallen, dear. I can see you're just a little privateer. As your confession draws no near, time and again I find I'm listless, or rather fistless in time. Oh, that's what I find. Of me.